Édouard et André couraient. Je n'ai vu que l'explosion. Là. Pile sur eux. Exactement sur eux. Le pointeur Bosch ne pouvait pas mieux faire. Juste sur eux. Quand on a pu aller voir, lorsque les autres salauds en ont eu marre de brûler leur poudre, on n'a rien retrouvé. Ni d'Édouard, ni d'André. Ou plutôt si. Quelques fragments de viande dans quelques morceaux de tissu, mais personne n'a pu dire de qui ils provenaient. Saloperie de saloperie. C'est comme ça que mon ami Édouard nous a tiré sa révérence. Je sais que Marthe fait tout pour aider Francette. Pauvre Francette, si drôle jadis et qui, d'après Marthe, n'en peut plus de vivre tant elle a pris d'âge en quelques heures. Marthe m'a même prévenu que je risquais de ne pas la reconnaître à ma prochaine perme. Pauvre Francette qui ne pourra même jamais aller se recueillir au cimetière de Costeblanc puisqu'on n'a rien pu lui renvoyer de son Édouard. Rien. Le peu qui était resté de lui ou d'André est resté sur place. Car un quart d'heure après ce pilonnage, les autres salauds ont remis ça en pire. Quand on est revenu voir où étaient les amis, on n'a même pas retrouvé l'emplacement. Mais moi, si les autres planqués de l'état-major se décident enfin à me donner ma perme, la première chose que je vais faire après avoir retrouvé Marthe et mes petits, c'est d'aller voir Francette. Et je lui dirai que son homme était le meilleur de tous, qu'il était mon frère, et qu'elle est maintenant ma petite sœur. Ma petite sœur, et qu'avec Marthe, on va l'aider à vivre, elle et ses 5 petits, en souvenir d'Edouard. Mercredi 20 décembre 1916, ferme des Combettes, 23h55. Cette fois, je peux y aller, pensa Marthe en entendant s'égrener les 12 coups de minuit. Oui, même avec 5 minutes d'avance, je dois pouvoir dormir. Elle en était maintenant à un tel point d'épuisement qu'elle se sentait prête à s'assoupir là, au coin du feu. Elle observa une dernière fois son travail de la soirée, estima que le tricot était bien avancé et le plia avec soin dans une serviette après avoir fiché les aiguilles dans la pelote de laine. Puis, elle baissa au maximum la mèche de la lampe à pétrole et entra dans la chambre. Là, après avoir vérifié que Louise et Albert étaient bien couverts, elle souffla sur la petite flamme bleue et rejoignit son lit à tâtons. Elle en apprécia la tiédeur, car la grosse bouillotte posée en son centre depuis le début de la veillée avait chassé le froid et l'humidité. « Ouais, je vais enfin dormir, » soupira-t-elle en se recroquevillant, comme chaque soir, à l'emplacement qu'occupait Jean avant la guerre. Il était 0h10, en ce 21 décembre 1916, lorsque Marthe, épuisée, plongea enfin dans le sommeil. Jeudi 21 décembre 1916. Tranchée des revenants, 0h05. Ah, voilà enfin les copains, pensa Jean, en entendant dans la tranchée les discrets chuchotements des hommes de la relève et le bruit de leurs godillots s'enfonçant dans la boue. Il venait de mettre son lebel à l'épaule lorsqu'un sifflement strident déchira l'air. Là, tout près, à l'emplacement occupé par le gosse de la 18. « Ah, le con ! Il a pris les gars de chez nous pour des boches !» gronda-t-il en s'accroupissant. « Il a lancé une éclairante ! Bon Dieu, pourvu qu'en plus, il ne leur tire pas dessus ! Avec la trouille qu'il a, il est capable de tout !»«
Surtout, joue pas les couillons, petit !»
jeta-t-il.
« C'est les copains qui arrivent ! Les copains !»«
Quelle garce d'éclairante ! » se dit-il. Si les pourris d'en face ne repèrent pas d'où elle est partie, c'est qu'ils roupillent encore plus que nous. Mais ça serait trop beau. Bon sang, Ils doivent voir nos lignes comme en plein jour. En effet, bien avant que la fusée ait fini sa combustion, éclatèrent les rafales de deux mitrailleuses Maxim, aussitôt suivies par un tir de mortier. Les salauds, pensa-t-il. Vu la distance qui nous sépare, ils doivent presque tirer avec les tubes à la verticale. Si encore un de leurs pruneaux pouvait leur retomber sur la gueule. Ce fut le quatrième obus qui explosa à 3 mètres de lui. Il était minuit un quart, dans la tranchée des revenants, et il y avait 872 jours que Jean avait quitté la ferme des Combettes. Jeudi 21 décembre 1916, hôpital militaire d'Amiens, 12h. Te plains pas, mon gars, et pense un jour à remercier le gamin qui t'a porté jusqu'au poste de secours après t'avoir fait un garrot. Oui, il paraît que c'est un gosse de la classe 18. Il aura la croix, il la mérite, assura le médecin-major penché vers Jean. Jean qui venait de sortir de plusieurs heures d'inconscience, de délire, mais pas de cette insupportable douleur qui était toujours là, terrible, à hurler. « Te plains pas !» insista le major. « Le petit t'a sauvé la vie. Sans lui, tu te serais vidé en un rien de temps. Il a su te faire sur la fémorale la pression qu'il fallait, et sans ça, enfin, tu sais ce que c'est. C'est aussi la boue qui t'a protégé, paraît-il. Elle a beaucoup amorti l'explosion. Et tu peux me dire merci aussi. Je t'ai sauvé une jambe, la gauche. » L'autre, j'ai dû la couper au genou, et sans peine parce que le plus gros était fait. Maintenant, tu t'en tireras. Pardi, c'est mieux de pouvoir marcher avec les deux pattes, mais tu verras, avec un bon pilon, tu pourras bientôt galoper. Je te le dis, ne te plains pas trop. Dans le fond, tu as de la chance. Samedi 23 décembre 1916, ferme des Combettes. Parce qu'il savait à quel point sa visite était redoutée dans toutes les fermes de la commune et déclenchait des flots de larmes, le maire de Costeblanc ne se rendit pas aux Combettes en cette matinée du 23 décembre. Il venait d'être informé que le première classe Jean Laval avait été grièvement blessé l'avant-veille en un point non spécifié du front. Blessé, mais bien vivant, avec cependant une jambe amputée. La dépêche ne disait pas laquelle. Mais pour Victor Delbos, qui, depuis 874 jours, prenait toujours connaissance des télégrammes officiels avec angoisse et avait déjà fait 18 visites mortuaires, ce fut avec soulagement qu'il apprit que Jean n'était pas mort. Aussi, pour ne pas effrayer Marthe et porter un mauvais coup à Octavine, qu'il savait aliter, confia-t-il au garde champêtre, le vieux Julien Masse, le soin d'aller prévenir Marthe.
« T'as qu'à lui dire d'abord que Jean est un petit peu blessé, pas mal blessé même, arrange ça, quoi, » insista-t-il. « Mais après, dis-lui bien qu'il n'est pas mort du tout. Après, pour sa jambe en moins, fais pour le mieux. »
Ce soir-là, 23 décembre 1916, Marthe alla se coucher à 22h et s'endormit presque aussitôt. Elle sombra dans le sommeil. Malgré sa grave blessure, Jean était vivant. Vivant. Pour lui, comme pour elle, la guerre était finie. Et la peur. Marcillac, 11 décembre 2002.
Merci et à bientôt chez Audible.